Vous écoutez France Culture.
La grande table d'été est en flammes. Un incendie ravage aujourd'hui le studio numéro 1 après avoir dévoré des hectares de désert dans le Nevada et la pelouse du parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Oui, la grande table crépite d'idées, d'étincelles jaillies de fer à souder et d'amplis à lampes, de guitares, rock. Avec une première partie dédiée au Burning Man, l'homme qui brûle, ce festival qui a débuté hier et qui, pendant une semaine, change le désert de Black Rock aux États-Unis en mec des hippies, des aventuriers cyberpunk et des petits génies de la Silicon Valley. Puis, la grande table d'été continuera de se consumer en deuxième partie avec le groupe Feu Chatterton, qui rend la langue française incandescente en mêlant sans vergogne littérature et rock'n'roll. Quant à Audelavigne et Marine Loyen, elles attiseront le brasier de leur bouillante chronique. Entrez donc à présent sur la Playa, l'immense étendue poussiéreuse au cœur du désert du Nevada où s'étale Black Rock City, la cité éphémère du Burning Man, ce festival aux airs d'utopie où les patrons de Google, Facebook, Amazon frayent parmi 70 000 burners entassés dans des tentes de fortune ou des yourtes climatisées et dont ils sortent tous déguisés ou en tenue d'Adam pour se rencontrer et échanger sans qu'il soit jamais question d'argent, des objets, des idées ou des projets. Et pour nous guider entre les chars rétrofuturistes, les structure bardée de panneaux solaires et la statue géante qui brûlera samedi prochain, la grande table d'été a convié le routard Arnaud Contreras. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Contreras, vous êtes documentariste, auteur notamment de Burning Man, la diaspora des burners, un documentaire radiophonique réalisé pour Sur les Docs. Et puis nous joindrons également en ligne, il est 3h45 sur place au Burning Man, et bien quelques festivaliers, Laurent Garcia, Laurent Le Gall. Et à présent... Puisqu'on a encore entendu cette musique techno qui plane sur la Playa, j'aimerais qu'on entre avec vous, Arnaud Contreras, sur ce Burning Man, dans ce festival dont l'origine remonte, dit-on, à 1986, avec la crémation festive d'un homme de bois à San Francisco. Et depuis près de 15 ans, les burners ont investi donc le désert de Black Rock, un désert où l'on ne croisait jusqu'ici que des fous du volant en quête de records de vitesse et des squelettes de mammouth. Un désert lisse, soudain hérissé de tentes, mais qui laisse d'abord quelle impression, parlez-nous, de l'environnement, du milieu naturel de ce désert de Black Rock ?
On arrive dans un environnement complètement minéral, au milieu d'une vallée, des montagnes immenses, blanches, rosées en fonction de l'heure. On a beau être 70 000... On est seul face à un environnement de western. On a l'impression que Clint Eastwood va débarquer du coin d'une Sierra. La gorge sèche par la dust, donc cette poussière mélangée avec le sel qui est sur la playa, qui forme le sol de la playa. Et on attend la nuit où toutes les lumières... enfin sont visibles, des millions de petites diodes, des millions de petites diodes qui sont aussi autant d'évolutions technologiques, d'innovations. Et on attend cette nuit où se révèle enfin le vrai visage de Black Rock City, la cité de Burning Man.
Vous citez Clint Eastwood, Arnaud Contreras. On dit que l'exploration pionnière de cette région des États-Unis par des immigrants, par des Américains, a eu lieu en 1844 avec la personne de John C. Fremont. Vous vous êtes senti comme un pionnier en débarquant là-bas avec votre nagra, votre enregistreur et votre micro ?
On se sent pionnier, oui. On se sent aussi héritier. Héritier d'une certaine contre-culture américaine. On se sent héritier. On se dit que certains membres de la Beat Generation auraient pu venir là. On se dit que Timothy Leary, l'inventeur du LSD, aurait pu aussi venir à cet endroit. On imagine Ginsberg ou Burroughs... en train de parler aux burners, mais on vient surtout à la rencontre d'autres burners et du monde entier.
Alors on reparlera sans doute dans quelques instants des expérimentations plus ou moins psychédéliques que vous avez pu mener là-bas, Arnaud Contreras, mais vous parliez de la gorge sèche, c'est une épreuve physique d'être épreuve, dans ce désert pendant une semaine ?
Oui, c'est une épreuve physique. Personne n'est assez bien préparé pour Burning Man. Il fait très très chaud, des tempêtes de sable régulières qui rythment la journée. Et tout le monde est dans une extrême précarité, une extrême... c'est une petite aventure, c'est pas non plus, on n'est pas en train de traverser l'Antarctique à pied. C'est surtout la confrontation entre la Californie, ce monde hyper matérialiste, ce monde hyper industrialisé, et le retour à un certain milieu sauvage. Vous avez beau avoir 80 litres d'eau.
Oui, parce qu'il est demandé à chacun, à nos contreras, de venir avec son propre matériel, sa nourriture, son eau pour être autosuffisant. Vous aviez prévu quoi? Alors 80 litres d'eau?
Nous, on avait prévu. Moi, je suis arrivé à Burning Man, je suis arrivé à San Francisco avec des gens que je ne connaissais absolument pas, que j'ai rencontrés là-bas. Et on a fait n'importe quoi. On a pris n'importe quoi dans notre voiture. On a pris de quoi. Je suis habitué quand même à pas mal voyager. Donc j'ai des petites notions des milieux désertiques, en particulier du Sahara. Donc voilà, je me suis calqué sur mon expérience saharienne. J'ai tout fait de travers, évidemment, comme je dirais 95% des burners, hormis l'eau. Il faut prendre énormément d'eau, il n'y a absolument pas d'eau sur place. Mais voilà, cet état d'extrême précarité, on ne mange pas beaucoup, on ne boit pas beaucoup, mène à l'hyprasensibilité. Sans drogue, juste une hyprasensibilité, une fatigue extrême. On dort très peu à Burning Man. Il y a des milliers de sound systems qui diffusent tout style de musique en même temps. Il y a un bruit continu. C'est une ville qui se crée en plein milieu du désert. 70 000 personnes qui créent une ville. On est très loin de l'anarchie. On est dans une ville constituée par des volontaires, par des bénévoles qui pensent à Burning Man toute l'année, qui prépare la ville de Burning Man toute l'année pour que l'expérience de Black Rock City soit la meilleure.
Alors on vous propose de vivre en direct cette expérience. Il est 3h53 du matin dans le désert de Black Rock, dans la Black Rock City. Nous sommes en ligne avec Laurent Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toujours éveillé et vous êtes donc certainement, comme le disait Arnaud Contreras, dans un état d'hyprasensibilité. Que voyez-vous? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous à cette heure de la nuit, Laurent Le Gall?
Bah, je suis très heureux déjà de pouvoir vous parler de Black Rock City et d'entendre Arnaud, qui est un burner qui a fait des choses magnifiques l'année dernière en radio. Je suis en ce moment au Center Café. Alors, ça dira quelque chose à Arnaud. Le Center Café, c'est l'endroit où les gens se réunissent jour comme de nuit pour faire des choses, de la musique, du free speech, que sais-je. Et en ce moment, donc, on est dans une partie de la ville, il est presque 4h du matin, on est dans une partie de la ville qui est un peu plus calme. Je suis là parce que j'ai un peu plus de réseau, mais la Playa, elle, vit toute la nuit au rythme des hardcars, des sound systems, comme le disait Arnaud, et puis des expériences absolument multiples qui se passent sur la Playa, sur l'esplanade, mais aussi à l'intérieur de la ville. Donc cette ville ne s'endort jamais.
Et alors Laurent Le Gall, ce n'est pas la première fois que vous brûlez au Burning Man. Qu'est-ce qu'il y a de singulier cette année? Je disais que comme tous les ans, il y a un thème artistique transversal. Cette année, c'est le caravansérail. Qu'est-ce que vous avez pu observer de nouveau, de neuf, de singulier?
Alors effectivement, chaque année, le thème remet un peu les choses en perspective. Alors caravansérail, c'est chouette parce que on est dans un désert. Donc là, il y a autour de l'homme qui cette année fait 100 feet de haut, donc une trentaine de mètres de haut. Il y a tout un souk qui se met encore en place. Donc on est dans l'imaginaire, on est dans les caravanes du désert et de l'imagination. Ici, les burners en ont beaucoup. Donc ça se ressent dans les costumes, ça se ressent évidemment dans les hardcars aussi qui sont présentes. Tout ça est un spectacle absolument fabuleux et à la fois spontané, mais comme le disait Arnaud, avec beaucoup de préparation. Ce qui est absolument insensé ici, c'est de voir le travail et l'énergie que les gens mettent, mais comme le disait Arnaud, à longueur d'année. c'est absolument phénoménal. Et donc à chaque fois, eh bien effectivement, le thème titille un peu l'imagination des burners. Et tout le monde y va, et à chaque fois, c'est très spectaculaire.
Arnaud Contreras, là, on est en pleine nuit, 4 heures du matin, dans le désert du Nevada. Vous parliez de l'épreuve physique que peut représenter la journée, la déshydratation. Ça ressemble à quoi, la nuit, au cœur du désert, physiquement ?
La nuit, il y a des lumières absolument partout. Il y a énormément de gens perdus aussi. Donc, on passe son temps à conseiller des personnes, même si on ne sait pas trop quoi leur dire, mais les rassurer parfois aussi. Et c'est surtout une boîte de nuit géante, une discothèque géante sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. C'est des expériences sensorielles sur la lumière plus que sur le son. Chaque hard car, donc Laurent parlait des hard cars. Les hard cars, ce sont des véhicules mutants.
Des chars.
Des chars.
Dans la grande tradition des carnavals.
Voilà, qui sont contrôlés d'ailleurs par un comité des mines, hein, comme les véhicules qui viennent en France. C'est-à-dire, c'est vraiment tout est hyper préparé. On ne peut pas accéder avec un hard car à Burning Man.
Il n'y a aucun véhicule à moteur d'ailleurs qui est autorisé, pour les hard cars.
Voilà, il y a des véhicules à moteur pour les hard cars. Il y a des bateaux qui sont montés sur des semi-remorques, sur des véhicules, sur des remorques de semi-remorques, des remorques de poids lourds, pardon. Voilà, c'est cette expérience-là. Des gens dansent partout, des gens échangent partout. Et c'est aussi un moment, il y a un moment très important, c'est la tombée, en fait. La tombée du jour, ce crépuscule où toutes les personnes imitent des hurlements de hyènes ou de loups d'un petit peu partout dans le désert. Et des personnes s'isolent un petit peu. C'est la période, ce qu'on appelle le chill out, où tout le monde se pose, soit avec des amis, soit tout seul. Certains pour méditer, d'autres pour échanger des idées et qui préparent à la nuit. Voilà. Et la notion de jour et de nuit disparaît. Enfin, très rapidement, au troisième jour, on est dans une sorte de rythme infernal de rencontres, d'échanges et plus encore de dons, où on a envie de plus en plus, on a envie de donner.
Laurent Le Gall, il y a quelques heures, quand la nuit est tombée sur le désert de Black Rock, sur le Burning Man, vous avez aussi poussé des cris de coyotes ?
Eh oui, absolument. On n'échappe pas à cette tradition et je peux vous assurer que quand vous avez, je pense qu'on doit être à peu près 45 000 personnes maintenant, parce que les gens commencent à arriver, et quand vous avez 45 000 personnes qui font un cri de coyote en même temps, ça fait de la poussière. C'est assez étonnant.
Et ça donne quoi alors si vous nous le faisiez entendre, ce cri de coyote à votre sauce ? Un coyote français dans le désert du Nevada ?
Alors attention, accrochez-vous.
Et vous avez une réponse donc, de la meute ici à Paris, à la Maison de la Radio. Laurent Le Gall, il y a ces rencontres dont nous parlait Arnaud Contreras. Quelles rencontres avez-vous faites depuis que vous êtes arrivé ?
Alors, depuis que je suis arrivé à Burning Man ou depuis que je suis arrivé il y a quelques jours ? Parce que moi, en fait, ce qui se passe...
Mais j'imagine que ça se joue déjà à l'aéroport, ça se joue à Reno, dernière grande ville du Nevada par laquelle on passe avant d'arriver. Mais alors précisément, puisque les rencontres, l'inclusion, l'intégration sociale est le premier des commandements de Burning Man, racontez-nous quelques-unes de ces rencontres peut-être faites en chemin ou déjà sur place.
Absolument. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit souvent que l'aventure commence à partir du moment où vous partez de chez vous. C'est-à-dire que quel endroit où vous soyez sur la planète, quand vous claquez la porte de votre domicile, l'aventure Burning Man commence. Et c'est vrai. C'est vrai qu'après, sur la route, dans les aéroports, dans les avions, on rencontre des gens. On se reconnaît assez facilement. Les gens ont des accoutrements et une espèce d'étincelle dans le regard qui fait qu'on sait où on va. Donc les gens se reconnaissent. Et très vite, il y a une chose en commun, c'est-à-dire que les gens qui sont allés, ou ceux qui vont le découvrir, cette année par exemple sur notre camp, il y a des gens, Mathilde et Constance qui viennent pour la première fois, qu'on appelle donc des newbies. Et alors là, c'est extraordinaire, parce qu'une fois que vous êtes burner, l'intérêt aussi c'est de passer tout ça, c'est de faire découvrir ça aux gens que vous aimez, et de voir leur réaction, c'est très touchant. Parce qu'effectivement, comme disait Arnaud, il y a un sas de compression, c'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit qui est très incroyable, qui est ce désert très plat, cet ancien lac salé aujourd'hui asséché. C'est très incongru dans le paysage, tout ce que l'on voit. Et on va mettre effectivement 2 ou 3 jours à s'acclimater. C'est-à-dire à s'acclimater à la fois à la démesure, à la fois aux détails minuscules, extraordinaires, et à cette débauche, ce volume à la fois sonore, le volume même des créations artistiques. Moi, j'ai fait une rencontre exceptionnelle il y a 12 ans et je suis toujours en train de la chérir aujourd'hui. Cet artiste s'appelle David Best. David Best a amené à Burning Man une expression de la spiritualité. Burning Man est une grande fête, évidemment, mais c'est aussi un lieu où David a amené ses temples, des temples avec des matériaux recyclés pour la plupart, qui sont créés par une armée de volontaires, donc de bénévoles. Pendant des semaines, là on est en train de construire le temple qui s'appelle Temple of Grace cette année, qui est absolument somptueux. Et les burners vont venir y déposer pendant toute la semaine des offrandes, des objets, des moments dédiés aux êtres chers disparus. Et ce temple va brûler à la fin, tout à la fin de l'événement, après l'homme. Et alors voir ce temple brûler avec tout ce qu'on a pu y mettre de nos douleurs et assister à ce burn dans un silence absolu, c'est exceptionnel.
Alors avant qu'on revienne sur cette dimension spirituelle et sur tout ce qui va brûler cet homme, donc cet homme géant de 30 mètres de haut et ce temple de David Best qui vous intéresse tout particulièrement, Laurent Le Gall, notamment cette année, j'aimerais qu'on écoute deux amoureux qui se sont rencontrés et qui ont décidé de se marier demain au Burning Man. C'est Pauline et Benoît qui a rencontré Marine Loyen et qui, au moment où ils préparaient leur bagage pour justement se lancer dans l'aventure.
C'était un déclic, c'est quand j'ai vu un des projets qui va se faire cette année. Je me suis dit, mais c'est l'endroit idéal pour se marier. En fait, c'est une structure qui est en bois, où ce sont deux personnes en fait qui s'enlacent l'une l'autre. Et en fait, cette grosse structure, elle est énorme. C'est vraiment, je crois, elle doit mesurer à peu près la taille de la Statue de la Liberté, sans le socle. Donc c'est quand même très gros, c'est très très gros. Et je trouve que c'est justement l'endroit parfait, symboliquement parlant, pour se marier. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est là que je veux me marier. Voilà, c'est le lieu et le fait de voir. C'est toutes ces choses qui ont fait que j'ai eu le déclic et de me dire, moi, c'est là où je veux me marier.
C'est vrai que c'est un festival quand même où il y a beaucoup d'amour, mais dans le sens, il y a tout un côté spirituel à ce niveau-là. Et c'est vrai que la structure qui va se monter, où on va se marier, là, devant laquelle on va se marier, Embrace, nous, ça nous a parlé et on s'est dit, voilà, c'est là.
Voilà. En fait, comme au Burning Man, il y a tout. Donc, tout est géré. Donc, il y a une adresse mail toute simple. Je crois de tête, c'est weddings@burningman.com. Donc, mariage, voilà. Et donc, on a envoyé un mail en disant qu'on avait pour projet de se marier, qu'on voulait savoir comment ça fonctionnait, pour que ça soit officiel, en fait. Et donc, on nous a dit, pour l'instant, on est en train de faire nos listes. On recherche justement des bénévoles qui participent, des gens qui se proposent auprès de l'organisation Burning Man, s'il y a des gens comme nous qui veulent se marier.
On avait fait une petite page sur les réseaux sociaux pour. C'était plus simple pour l'annoncer à tout le monde. Et on a eu vraiment des réactions hyper positives de burners, de gens qu'on a rencontrés là-bas, ou même de gens qui ne nous connaissaient pas forcément, ouais, qui sont rentrés en contact avec nous en nous disant: ah, c'est super, vous mariez à Burning Man, c'est génial. Bah écoutez, moi j'ai envie de participer à ça et j'ai envie de vous aider. Et notamment Joyous qu'on a rencontré. Mmh.
Alors Joyous, c'est une personne, donc c'est une femme qui habite aux États-Unis. Dans la vraie vie, elle vient juste de monter sa petite entreprise de cupcakes. Donc elle fait des cupcakes. Et en fait, elle nous a proposé, avec différents échanges, en fait, elle va nous faire quelques cupcakes pour une petite centaine pour les amis qui seront là. Et on me demande souvent combien il y a d'invités et je dis il y en a 68 000 parce que de toute façon on sait qu'il y a des amis à nous qui vont venir, des Américains, des Français, des Européens qui vont venir, qui sont des amis, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont voir qu'il y a un mariage, qui vont venir. Donc on va pas se dire oui, on va se dire yes, quoi. Ça sera
I do.
Yes, I do.
À Arnaud Contreras, on l'entend dans ce témoignage de Pauline et Benoît faisant leur sac pour partir se marier donc demain au Burning Man. On trouve des mariés, on trouve des fabricants de cupcakes. Il y a une faune à différents visages. Traditionnellement, dans cet écosystème, on trouve plutôt des antilopes et des serpents à sonnette. Mais alors, parmi ces festivaliers, ces burners, quel visage chamarré rencontre-t-on ?
Alors, c'est le visage de la Californie, de la jeunesse californienne avant tout. C'est le village de ces gens de beaucoup de gens qui ont choisi d'habiter en Californie, pas forcément les vieux Californiens. Beaucoup de personnes de la Silicon Valley qui travaillent dans la Silicon Valley à tout niveau de responsabilité. Enfin, il y a vraiment depuis simple employé jusqu'au grand patron d'entreprise de la Silicon Valley. Beaucoup de personnes aussi issues des mouvements punk, steampunk, cyberpunk. Voilà, quelques personnes issues du mouvement hippie, mais on calque facilement l'image hippie. Je dirais que c'est plus un mouvement punk, Burning Man, qu'un mouvement hippie. C'est peut-être le côté spirituel, spiritualité, ésotérisme un petit peu aussi, qui attribue cette image. Après, pour chaque pays, il y a des populations différentes. C'est-à-dire, les Allemands que j'ai pu croiser à Burning Man étaient plus des entrepreneurs. Les Français que j'ai plus croisés à Burning Man étaient soit en effet des expats français qui travaillent dans la Silicon Valley, soit le milieu plutôt punk, contre-culture en France. Chaque pays a son public Burning Man, a ses réseaux Burning Man. Il y a des associations de burners un petit peu partout dans le monde. Il y a des Burning Man régionaux aussi, des événements qui sont affiliés à Burning Man. Donc voilà, il y a tout un ensemble. Je ne dirais pas qu'il y a une lutte des classes au sein de Burning Man.
Oui, parce qu'il y a un papier, Arnaud Contreras, notamment récemment paru dans le New York Times, qui faisait valoir l'opposition entre d'un côté les burners un peu traditionnels, un peu steampunk que vous évoquiez, et puis ces manias de la vallée de la tech, de la Silicon Valley, qui viennent à côté des tentes et des camping-cars planter leurs yourtes à air conditionné, électricité, wifi, avec chef privé qui cuisine pour de riches invités sushi, homard et steak tartare sous 44 degrés. C'est autour de $380 la participation pour l'entrée au festival cette année, et ça monte à $25,000 pour ces gens-là. Pour vous, ils se côtoient quand ils ont enfilé leur déguisement, leur costume, et il n'est pas question de ségrégation dans ce territoire ?
Non, pour juste parler de ces articles, voilà, c'est un peu un marronnier dans la presse américaine depuis une dizaine d'années. Avant chaque Burning Man, il y a un papier sur les différences qu'il peut y avoir sur la playa. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une hypersensibilité. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est épuisé, d'une part par le milieu naturel, d'autre part par le bruit permanent, les fêtes permanentes. Donc, il n'y a pas d'opposition réelle. Ce qu'il y a, c'est des rencontres. C'est un lieu, c'est un creuset de rencontres entre des gens qui viennent du monde entier, qui viennent certes de milieux sociaux, culturels différents, mais on voit pas de grands écarts de richesse. Et ces personnes, en effet, qui mangent des sushis frais sous des tentes climatisées, sont aussi, les papiers dans le New York Times ou dans le Guardian ne le précisent pas, sont aussi les premiers à partager tout cela. C'est-à-dire les personnes qui donnent $25,000 alors que d'autres donnent $360, sont au même niveau, sont sur la dust, sur la playa, et partagent absolument tout cela.
Ils partagent donc des principes communs, puisqu'il y a un décalogue, les 10 commandements du bon burner, avec un maître mot qui est celui de radical, 10 principes qui sont l'intégration sociale, le don, le refus de la marchandisation, l'autonomie, l'autosuffisance, la libre expression, l'effort commun, la responsabilité civique, ne laisser aucune trace, participer dans l'immédiateté. Il y a toute cette dimension qu'on retrouve donc dans les échanges au quotidien, dans les conférences, qu'on retrouve au pied de ce grand homme qui va brûler samedi, et qu'on trouve aussi, vous en disiez un mot, Laurent Le Gall, vous êtes de retour en ligne avec nous depuis le Burning Man où il est à présent 4h09 du matin. On le retrouve dans le temple de David Best auquel vous avez décidé de consacrer un film documentaire.
Absolument. Moi, ça fait 12 ans que j'ai fait cette rencontre exceptionnelle qui a bouleversé ma vie. C'était David Best, c'était ce temple sur la playa dédié aux êtres chers disparus. J'étais à ce moment-là dans le deuil de mon père et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a permis de comprendre, quand on est athée comme moi, qu'on peut avoir un début de réponse avec de l'art éphémère, et que l'art peut soigner. David est un personnage incroyable, extrêmement charismatique, qui a décidé effectivement en l'an 2000 d'exprimer la spiritualité pour la communauté au travers de cet art, de ce temple. Et depuis, c'est devenu effectivement quelque chose de récurrent. Moi, j'ai rencontré David Best et ce temple en 2002. J'ai fait un premier film qui s'appelait Voyage en Utopie, et où j'ai suivi effectivement du dessin jusqu'à la crémation l'histoire de ce temple au travers donc de David Best et puis l'interaction avec les gens. J'ai même suivi une amie à moi, Samantha, qui est venue déposer les cendres de sa mère dans ce temple. Un petit peu, alors c'est un petit peu comme disait Benoît tout à l'heure, lui il a vu quelque chose, il a envie de s'y marier. Et tout d'un coup, j'avais fait quelques images, j'ai montré ça à Samantha et elle m'a dit « je sais où je veux mettre les cendres de ma mère ». Donc du coup, on a suivi tout ça, donc c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui se charge d'énergie incroyable tout au long de la construction. Là, par exemple, on est en train de faire le temple de cette année qui s'appelle le temple Temple of Grace. Et on est une équipe à peu près de 100, entre 120 et 140 personnes à construire ça. On est tous bénévoles et on charge aussi d'émotions la construction. Et quand ensuite le temple est passé à la communauté, alors là, c'est maintenant la communauté qui s'en empare. Et cet édifice se couvre d'hommages, devient un véritable sanctuaire. Les gens apportent des choses incroyables. Il y a des objets, il y a quelqu'un qui a amené un piano un jour qui appartenait à son grand-père. On improvise aussi des moments et on s'y marie aussi. C'est-à-dire que les gens viennent dans cet endroit pour se marier. Donc c'est un spectre très large de sentiments qui fait que c'est un endroit absolument unique et qui évidemment contraste avec cette ambiance de fête absolument extraordinaire et complètement délurée. Et puis à cet endroit où on vient se retrouver et donc c'est je trouve un endroit exceptionnel et une histoire exceptionnelle à raconter. Donc cette année, j'ai décidé de raconter l'histoire que j'ai avec David Best depuis maintenant 12 ans et de mettre en perspective toutes ces archives avec la construction de tous ces temples. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous annoncer qu'on a eu le support vraiment de Burning Man au point d'obtenir un grant de Burning Man, donc au même titre que les artistes de la Playa, pour aider le film à se faire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc on va faire un portrait, je vais faire un portrait de 90 minutes qui s'appelle Temples of Life, où on va faire une rétrospective des temples à Burning Man et où on va prolonger en fait l'histoire dans un temple que David Best va construire en Irlande, à Londonderry au mois de mars. Et ce temple, évidemment, va rassembler les catholiques et les protestants dans un endroit de cette Irlande du Nord qui est chargé, bien évidemment, d'histoire.
Alors, il y a toute cette dimension spirituelle de communion, même pacifiste, pacifique et pacifiste, telle que vous la décrivez dans ce projet de David Best et dans votre projet de film, Laurent Le Gall. Il y a aussi toute cette dimension délurée dont vous disiez un mot et dont Pauline et Benoît, qui se marient donc demain au Burning Man à vos côtés, ont accepté de parler au micro de Marine Loyen.
C'est très utopiste, mais c'est ça qui est justement très perché, c'est que vous arrivez dans le désert et il y a tout. Vous pourrez très bien trouver sur un camp qui vous faire coiffer, des camps qui vous proposeront des massages, des camps où il y a effectivement, ça va aller un peu plus loin, où il faut être adepte à certaines pratiques. Il y a des gens qui sont suspendre, tout ce qui est bondage ou genre de choses. Après, on n'oblige personne à faire quelque chose. Si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire, mais personne ne te forcera à le faire. C'est toi-même qui décides. Donc si tu as envie de te mettre, entre guillemets, on va dire, en danger toi-même pour avoir une montée d'adrénaline, c'est à toi de le faire, effectivement. Après, on peut te proposer des fois de prendre certaines choses, des drogues, des formes d'expression, on va dire. Il y a le orgidome aussi dans ce cas-là, où c'est un endroit où tu rentres de ton plein gré dedans. C'est un lieu d'échange où effectivement il y a des pratiques sexuelles, où tu peux très bien croiser quelqu'un. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui prennent des drogues, mais on sait aussi qu'à côté il y a quand même des gens qui sont là pour surveiller. Si tout se passe bien, il y a des centres médicaux s'il y a des gens qui font des malaises. Il faut savoir, il y a la police qui patrouille abondamment. L'an dernier, c'est une des années d'ailleurs où il y a eu le moins d'arrestations, mais il faut savoir qu'il y a eu des années où il y a eu quand même beaucoup d'arrestations pour des gens qui revendent de la drogue. Mais bon, c'est souvent comme ça qu'ils sont attrapés, c'est qu'il n'y a pas d'argent au Burning Man. Donc dès qu'on voit des transactions d'argent, en général, on se doute que c'est pour certaines choses de ce genre-là. Après, il y a tellement de trucs déjà incroyables au niveau des lumières, des choses, des jeux de lumière, des jeux de miroir, qu'il n'y a pas besoin de prendre de choses spécifiques pour déjà voir des trucs incroyables en fait.
Sur la playa du Burning Man, ce festival, donc si dans le désert du Nevada, Arnaud Contreras, vous avez vu des choses incroyables, des acrobaties, des danses chamaniques, peut-être avez-vous même pris la fessée sous l'orgidome, vous êtes peut-être mis en danger. Mais le plus incroyable, je crois, pour vous, c'est la dimension de laboratoire de l'art, de l'architecture, du design, de l'urbanisme, un laboratoire à ciel ouvert où les plus grandes innovations se dessinent.
L'idée aussi de réaliser un documentaire là-bas pour Sur les Docks, c'était de présenter les différentes formes de burners, les différents styles de burners. Il y a une grande partie des burners qui viennent pour tester des innovations technologiques, des innovations dans le domaine privé. On en parlait, l'orgidome, chacun peut tester des pratiques sexuelles, peut tester des drogues. Mais là où il y a la plus grande innovation, c'est dans vraiment le domaine technologique. Des domaines technologiques dans les lumières. Il y a énormément d'entreprises qui testent des formes de diodes, des formes de capteurs dans toute la ville de Burning Man. Innovation dans le domaine, évidemment, des smartphones, des applis, où il y a des applis qui sont créées spécialement pour Burning Man, qui sont testées là-bas. Et l'intérêt aussi, enfin, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, ce dont on a pas mal parlé dans le documentaire sur les docks, c'est que c'est une ville. C'est une ville où des urbanistes testent des innovations qui peuvent nous servir à nous un petit peu partout. J'ai rencontré comme ça un pas loin de l'orgidome justement. Enfin, il y avait d'un côté tous ceux qui testaient plein de choses d'un point de vue sexuel. Et juste à côté, il y avait une petit groupe de techniciens, d'informaticiens qui sont en train de tester des nouvelles applis pour aider l'urbanisme. C'est ce qu'on appelle les smart cities. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde entier. C'est comment bien utiliser l'énergie dans nos villes, comment avoir un éclairage public qui soit en adéquation avec la population qui est dans la rue, le nombre de personnes qui sont dans la rue. Et cette personne m'expliquait qu'on n'en est plus au stade où on fait des applis sur les villes existantes. On en est au stade où on fait des villes sur les applis. C'est-à-dire on s'inspire d'applications. En particulier, il se passe quelque chose à Paris, une expérience dans le 9e arrondissement, où ces Américains sont en train de proposer à la mairie du 9e arrondissement une manière de circuler dans le 9e arrondissement en fonction de leur application de smartphone. Donc on est dans cette recherche permanente d'applications, on est dans cette recherche permanente de technologies. Ça ne les empêche pas de faire la fête toute la journée. Et ça fait partie aussi du cursus de la jeune personne qui veut réussir dans la Silicon Valley d'aller à Burning Man. Ça fait vraiment partie du parcours professionnel maintenant d'aller tenter l'expérience Burning Man.
Oui, on dit que par exemple le couchsurfing, donc cet art de voyager en dormant sur des canapés, serait né là-bas. Un architecte, Vinay Gupta, a inventé au Burning Man son hexayourte en carton, donc une maison temporaire qui aujourd'hui permettrait de remplacer les tentes, en particulier pour les réfugiés. Désormais, il travaille avec le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Vous avez eu des illuminations, des eureka pour la ville de demain, pour le mieux vivre, la convivialité sur place, Arnaud Contreras ?
J'ai pas eu des illuminations, j'ai vu comment, en modifiant l'endroit où se situait un rond-point, une sorte de place, ce rond-point, cette place a été modifiée d'endroit en une demi-journée. J'ai vu comment la circulation a été améliorée dans cette ville. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne bouge pas une place, on ne va pas bouger la place de la République d'un endroit de Paris à un autre endroit. J'ai vraiment vu, on voyait que ça circulait mieux. J'ai vu, c'est complètement anecdotique, mais au niveau des vélos, de l'utilisation des vélos, alors qu'on est toujours au stade des Vélib, ils sont passés, mais à 10 stades après les Vélib, où les vélos sont juste poser, emprunter. On est revenu une sorte d'échange avec des puces qui permettent de détecter où sont certains vélos. Voilà, c'est surtout dans le domaine de la lumière, en fait, l'utilisation de l'énergie.
Et du réseau aussi,
et du réseau.
Il faut prendre au sérieux, très au sérieux, ce Burning Man. De nombreux Français, de plus en plus nombreux, y vont chaque année, comme Laurent Le Gall et Laurent Garcia, qui sont en tandem et dont nous entendions tout à l'heure le témoignage. Vous dites même que Google, ce géant mondial de la bourse, mais aussi de la technologie et de l'innovation technologique, serait né au cœur du désert du Nevada à Black Rock City.
Beaucoup de grandes entreprises technologiques sont certainement nées à Burning Man. Il y a une légende urbaine de Burning Man qui dit que le nom Google vient des goggles. Les goggles, donc, qui sont des lunettes d'aviateur qu'on met pour se protéger en fait, des tempêtes de sable et qui permettent de voir dans le brouillard. On dit aussi, ça a été confirmé par la personne elle-même, que le PDG de Google a été choisi entre autres candidat de Google parce qu'il avait participé à Burning Man. Il y a une émulation technologique, il y a une émulation d'échange, il y a une émulation de dons. Quand je parle d'échange, c'est surtout dans la sphère technologique. Le reste des personnes à Burning Man sont dans le don. Moi, j'ai apporté des sondes sur les docks, des rushs, et je les offrais aux gens. Et c'était une manière, en leur mettant un
donc
casque sur
les oreilles.
On a écouté
France Culture dans le désert du Nevada.
On a écouté France Culture, on a écouté Emmanuel Laurentin, on a écouté, on a écouté plein de gens de France Culture dans le désert du Nevada. Ils avaient un petit peu rectifié le logo de France Culture en France Culte, hein, parce que le thème de l'année était Cargo Culte. Voilà. Certains ont enlevé le T aussi. Et on est dans un échange permanent, dans un don permanent à Burning Man.
Présent autour de la grande table d'été, nous sommes nous aussi dans le don permanent. Et là, c'est Aude Lavigne qui vous fait don, auditrice, auditeur de sa chronique. Elle a enfilé ses plus belles goggles pour sa chronique à première vue et s'entretient aujourd'hui avec le critique d'art Frédéric Paul.
Frédéric Paul est critique d'art et docteur en histoire de l'art, ancien directeur du FRAC Limousin et du Centre d'art contemporain du domaine de Kerguénec dans le Morbihan. Il a publié de nombreux essais sur William Wegman, Douglas Hubler, Jonathan Monk, Claude Koski et plus récemment Giuseppe Pennon, l'artiste italien. Au téléphone, Frédéric Paul répond à notre question: quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? Et à première vue, Frédéric Paul, vous répondez.
Alors, à première vue, j'essaie de me souvenir, et je crois bien me souvenir que dans ma chambre d'adolescent, il y avait un poster. Ce poster était une reproduction d'une œuvre de Paul Klee. On ne devait pas se trouver là, pas tout à fait par hasard. En l'occurrence, il s'agissait d'une œuvre de petit format, comme souvent chez Klee. Il s'agissait d'une œuvre très connue de Paul Klee, une œuvre d'ailleurs que je n'avais pas vue dans la réalité, le Vénétio de 1922. Et cette œuvre, que je ne trouve pas d'ailleurs avec le recul comme la plus exemplaire de l'œuvre de Paul Klee, ben, elle a dû quand même occuper un petit peu mon esprit pendant un certain temps. Je me souviens que c'est moi qui avais choisi ce poster, pas mes parents. C'était donc, il y avait une volonté. Et puis de là, on grandit et on va vers des choses différentes. Je crois que j'ai toujours été attiré par les avant-gardes sans en connaître les bases historiques. C'est un peu de cette façon que j'ai dévoré Joyce alors que j'étais tout jeune et certainement pas en état réellement d'appréhender dans toute sa complexité. Mais pour en revenir aux clés, ce qui m'amuse avec le recul, c'est que j'ai vu bien plus tard, une vingtaine d'années au moins plus tard, l'original de ce petit tableau-tin pour ainsi dire. Et j'ai été très très surpris de voir qu'il était plus petit dans la réalité que dans ce poster. Et ça, c'est assez intéressant, comme si cet agrandissement était fait pour impressionner davantage le visiteur. Mais de là, bien sûr, une des choses qui m'a vraiment profondément bouleversé peu de temps après, ça a été la lecture d'un recueil d'essais d'Arnold Schoenberg qui a été publié en français très tardivement sous le titre « Le style et l'idée ». Et là, je crois que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le processus de création qui m'ont aidé à appréhender plus tard des œuvres de plasticiens aussi bien que d'autres créateurs. Ça, c'est une référence pour moi, je dirais, assez absolue, qui m'a structuré d'une façon vraiment déterminante. Et puis après, il y a les visites, les rencontres, les ateliers d'artistes, des ateliers qui sont plus ou moins mémorables, mais on doit dire que c'est vrai que l'atelier de Wegman, par exemple, était pour moi un moment très très fort. Donc voilà, des rencontres.
Alors c'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne, notée, chères auditrices, chers auditeurs, la récente publication d'un ouvrage de Frédéric Paul consacré à Giuseppe Pennon chez Actes Sud. Mais alors puisqu'il est question avec Aude Lavigne de première fois, de basculement, Arnaud Contreras, nous sommes toujours les pieds sur le dust, la playa, la poussière de la playa du désert de Black Rock au Burning Man. Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas avec vos quelques litres d'eau et votre nagra en bandoulière ?
C'est pas très original, c'est-à-dire...
C'est une femme ?
Non.
Qui vous a attiré ?
Pas du tout, non. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller. Ça fait partie un petit peu du parcours des contre-cultures et des choses... Voilà, je pense que c'est une bonne étape d'apprentissage d'aller là-bas, d'appréhender aussi la Californie de cette manière, d'appréhender la Silicon Valley et notre époque de cette manière. Non, c'est en plein milieu de l'été. Quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit « il me reste 2 places pour Burning Man, t'as 15 jours pour faire ton sac, tu veux venir ?» Et j'ai dit « Davaille, allons-y ».
Alors qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac ? Parce qu'il y a une, non pas des contraintes, des commandements de ce Burning Man, mais un élément important, c'est qu'on sort déguisé. Et c'est pour la raison pour laquelle notamment les grands patrons, les tycoons de la Silicon Valley peuvent se balader presque incognito, c'est qu'on a un déguisement quand on n'est pas tout nu. Vous aviez choisi quel oripo ?
On s'habille comme on veut et comme as you are. On s'habille vraiment comme on veut. Moi, je me suis très peu déguisé, j'étais... comme d'habitude, en chemise blanche, comme quand je suis au milieu du Sahara. Et ça provoque des rencontres d'être en chemise blanche, parce que c'est vous l'original, au milieu de Burning Man. Et qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis beaucoup de temps à préparer mes dons à Burning Man. Ça m'a posé beaucoup de problèmes, de dire qu'est-ce que je vais donner aux gens là-bas. C'est ce qui m'a posé problème. Et le choix des sons, j'ai décidé d'emmener et d'offrir des sons aux gens sur la playa, comme prétexte à discussion, comme prétexte à rencontre, pour aussi enregistrer des séquences pour Sur les Docks, évidemment, parce que ça provoque des choses formidables. Et j'ai mis énormément de temps à choisir mes sons. Qu'est-ce que je vais emmener ? Est-ce que j'emmène des sons de Géorgie, du Sahara, d'Afrique du Sud ? Qu'est-ce qu'un Américain, un Californien ne connaît pas ? Et qu'est-ce qui peut provoquer discussion qui aille vers l'avenir et non pas vers la commémoration, vers le passé, mais qu'on parle de 2013, donc j'étais en 2013, et qu'on parle de 2014-2015. Donc voilà, moi c'était vraiment la question dans mon sac. Ça prenait pas beaucoup de place. C'était une petite carte SD et une clé USB. Mais c'est ça que j'ai mis le plus de temps à préparer. Pas ma chemise blanche.
Merci beaucoup Arnaud Contreras. À propos de ces sons que vous offrez non seulement aux Américains participant au Burning Man et à tous les participants, tous les burners de tous les pays, mais aussi aux auditrices, aux auditeurs, aux internautes de franceculture.fr, votre Burning Man, la diaspora des burners, votre documentaire radiophonique, il est en écoute sur la page de Sur les Docks, sur le site de France Culture. Donc, et puis, puisqu'on prépare l'avenir là-bas, mais ici aussi, il faudra découvrir une prochaine série dans un autre désert que vous élaborez actuellement dans le Sahara, où il sera question de musique. Ce sera les 20, 21 et 22 octobre, toujours à l'antenne de France Culture, dans Sur les Docks. Et puis, dans ses bagages, Marine Noyen avait aussi glissé quelques témoignages qu'on n'a pas pu diffuser, mais qui seront disponibles sur la page de la Grande Table d'été. Les témoignages de Pauline et Benoît et de leur mariage demain. À présent, autour de la grande table, entendez résonner le live de Mathieu Conquet. C'est l'heure. Il nous propose aujourd'hui d'écouter Joan as Policewoman, soit Jeanne d'Arc en policière. La comparse de Lou Reed et John Cale nous propose en solo The Classic. And I feel like this is living. It's been a long, long, rocky road I have run.
feel that you're all I need to get by. And I love how it feels to be so high without sinning. It's been an all-nighty drive into your heart. And it feels like I made out with all I was hoping for. Could it be that you are the one? Could it be that you are the one? And we blow through the air like we're floating on a feather. Rock and roll. Yes, you hummed me the tune that enraptured my heart. And you threw out all my devils to make room for monumental love. Could it be that you are the one? Could it be that you are the one?
Alors, c'est la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Joan as Policewoman, qui sera en concert cet automne le 18 novembre au Café de la Danse à Paris et dont le disque de classique est à retrouver sous le label Piace.
Jusqu'à 14h, la grande table
d'été,
Martin Kénéen.
Et après le désert, voici que l'incendie se propage en deuxième partie de la grande table d'été, jusque dans les pinèdes ombragées sur le pont des navires de croisière et sur les scènes électrisées des festivals de rock, par la grâce et la très grande faute de Feu Chatterton, un groupe français dont tous les membres sont aujourd'hui accoudés à mes côtés. Arthur, Clément, Sébastien, Antoine et Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Madame, je jalouse souvent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, souvent suaves et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse souvent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Ah oui. Ah oui.
chaque missive la vois-je, à chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui, et cette attente comme un missile endolorit ma tête. Vois-je, vois-je, endolorit ma tête. Vois-je, vois-je, que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit.
La Malinche, donc un extrait de ce morceau de Feu Chatterton. Feu Chatterton fait sensation, mais alors, quelle sensation souhaitez-vous faire partager au public, notamment qui vient de plus en plus nombreux et excité à vos concerts, Clément ?
Les sensations que nous, on recherche personnellement dans la musique. Donc nous, on essaie de faire du rock en français. Donc la porte d'entrée, c'est quand même raconter des choses par le biais littéraire, mais raconter des histoires qui sont relativement simples et accessibles. Et accompagné d'une musique très rock, voilà, parfois un peu électro, qui est assez dynamique. On cherche quelque chose de doux et d'agressif, et voilà.
Antoine, qui est à la basse, ouais, dans Feu Chatterton, quelle sensation vous ressentez quand vous êtes ensemble au travail? Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans des studios climatisés avec des diodes luminescentes partout, comme au festival Burning Man, ou dans des endroits un peu plus rock'n'roll, des garages. C'est quoi les sensations qui ont présidé à l'élaboration de cette EP, donc de ce disque qui sera à la rentrée?
Je sais, c'est une question un peu dure. Je pense qu'on essaye de tous se mettre au service des histoires que Arthur raconte. Donc ça va aussi dépendre beaucoup du texte.
C'est le texte qui arrive le premier ?
Ça dépend en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Souvent il y a des maquettes qui arrivent déjà prêtes de Sébastien ou Clément. Ou alors on fait une grosse jam session. Et
vous voyez ce qui sort des amplis, voilà. Raphaël, percussionniste, batteur.
C'est sûr que le texte arrive en premier ou pas, à la fin, le morceau raconte quand même une histoire. Et par exemple, si on prend Côte Concorde qui raconte un naufrage, émotionnellement, tout ce qui a guidé la musique, mais qui existait déjà avant le texte, ça va être de chercher cette espèce de côté dramatique, extrêmement intense.
Vous êtes allé sur la jetée, bord de la mer, écouter les mouettes et regarder les vagues déferler pour trouver le rythme.
En studio, on l'a fait.
De Côte Concorde.
En studio, on l'a fait. Et voilà, à ce moment-là, pour cette chanson, c'est ça qui va sortir. Si on passe à La Malinche, qui est quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Enfin, voilà, à chaque histoire, on essaye, je pense, de même quand on joue sur scène, quand on enregistre, de se brancher sur l'émotion que suscite le texte et la musique, sur le mélange des deux. Mais c'est, enfin, donc les sensations, elles sont très très variées. C'est vraiment à chaque morceau. Des sensations différentes. Le seul but, je pense, c'est qu'on essaye de faire retrouver aux gens tout le plaisir que nous, on a eu à écouter de la musique et le plaisir orgasmique par moment à essayer de le retranscrire sur certains morceaux pour le rendre, parce qu'on en a beaucoup reçu.
Les sensations, les émotions sont donc composites et même orgasmiques, dites-vous, Raphaël. Les textes, eux aussi, Arthur, sont d'inspiration composite. Godard disait qu'un film, c'est une fille et un fusil. Mais alors, pour le texte d'une chanson de Feu Chatterton, quels sont les ingrédients ?
Je pense que pour le cinéma, comme pour le hip-hop ou le théâtre, c'est très 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 souvent une fille, un fusil. Et tout ce qu'on peut faire avec, on peut tout faire varier. Quoi. Je pense là, comme ça, à quelque chose, on parlait d'orgasmique un peu étrange, aux valseuses. Alors le fusil, bon, malheureusement.
Il y a un pistolet qui traîne dans les valseuses.
Un drôle d'endroit aussi. Enfin voilà, on peut imaginer toute une série de compositions avec une femme et un fusil, sans être pour autant misogyne. Et ce que disaient Raphaël, Clément et Antoine, c'est effectivement à chaque fois la musique sert le texte. Alors parfois c'est la musique qui inspire le texte et à la fin, tout vient se resserrer autour de l'intention du texte. Maintenant, on se rend compte un peu parce que ça a été charrié comme ça dans nos expériences, etc., que presque tous les textes, même s'ils n'ont pas toujours quelque chose en commun, ont au moins en commun quelque chose de doux, amer, d'aigre doux, d'ironique. Et c'est pour ça qu'on se permet souvent qu'on parle d'une fille qui est loin, qu'on a envie de retrouver, d'un ami qui est parti, d'un bateau qui coule, d'amants qui s'enflamme dans les bois. C'est pour ça qu'on se permet toujours une certaine emphase, parce que derrière, il y a de l'ironie. Et ce jeu-là, moi, j'ai retrouvé la complicité qu'on peut retrouver dans les chansons avec les morts, Gainsbourg, Brassens, etc. C'est quelque chose que moi, j'ai envie de retransmettre et qu'on a tous envie de transmettre. L'idée qu'on peut déceler un second sens à des textes et sourire en coin et dire « Ah, salaud, j'ai compris ce qu'il voulait dire. » Et on est ensemble. Pourtant, il est plus là. Gainsbourg, Brassens, Bachoun, ils sont plus là. Mais parfois, on a l'impression qu'ils nous parlent directement parce qu'on a compris ce qu'ils voulaient dire.
Sébastien, guitariste-compositeur, ce goût doux-amer dont parle Arthur à l'instant, celui de votre imaginaire, à la fois pyromane, un brin sanguinolent dans certaines chansons, est-ce qu'il vous vient de l'adolescence, dont le feu sacré serait encore en vous ?
Ouais, c'est sûr que, en tout cas, dans les compositions qu'on présente dans cette EP qui va sortir en septembre et celles qu'on joue actuellement sur scène, il y a cette adolescence et comme le disait Arthur, dans l'adolescence, il y a face à des situations que chacun a vécues à cette période de la vie, il y a cette relation un peu amoureuse avec les événements et aussi très dure. Donc ce doux amer, je pense qu'il est à la fois dans les textes et en tout cas dans l'univers que Arthur essaie de décrire dans ses histoires et dans la musique. Et nous, on essaie dans la musique et par la musique de porter un sens plus clair, plus fort à certains mots, à certaines sensations qu'il essaye de passer par les mots. Voilà. C'est sûr que dans notre composition, l'adolescence est fondamentale. Et elle est, après, on le voit aussi dans parfois la naïveté de certaines chansons. La mort dans la pinède est au final une chanson assez simple, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue mélodique, mais qui arrive à être assez forte puisqu'elle est alliée à la simplicité d'un texte et d'une émotion qui est celle de deux amants qui s'embrassent dans une pinède, une histoire assez banale en fait.
Mais alors justement, ces expériences amoureuses, ces paysages, la pinède, la côte mexicaine dans la Malinche dont on entendait un extrait il y a un instant, à qui appartiennent-elles ? Vous vous mettez tous les cinq autour de la table pour partager vos souvenirs de vos 17 ans, Arthur ?
Je dois dire que là-dessus...
Vous êtes le seul à oser vous mettre à nu ?
Bah non, on le fait tous ensemble. Par exemple, Côte Concorde, qui raconte le naufrage du Costa Concordia de façon un peu allégorique. C'est un concours de circonstances où, en même temps, les événements arrivent. Ce fait divers arrive, plein de symboles partout, un vendredi 13, une journée noire pour la finance, un gros bateau qui sombre. Et en même temps, dans les mêmes jours, Clément qui m'envoie un morceau instrumental avec des guitares qui ressemblent à de l'eau. Donc moi, disons que ces sentiments-là, je les transcris avec les mots, mais quand Sébastien, Clément compose ou quand en jam session, tout le groupe compose... Il y a des sentiments qui n'ont pas besoin des mots pour être dits. Et c'est pour ça que, en fait, je suis assez bien servi, assez tranquille. Je veux dire, je pourrais dire des choses encore plus simples, ça marcherait parce que derrière, il y a cette même violence rentrée. Je pense que l'adolescence a cette chose-là d'avoir la chance, de la primeur, de vivre que des sentiments neufs. Et quand ils sont douloureux, comme disait Sébastien, ils sont quand même beaux parce qu'on ne les connaît pas encore.
Mais dans vos textes, Arthur, il y a aussi un vocabulaire, et peut-être plus encore une syntaxe un peu old-fashioned, à l'ancienne, un peu bousculée. Ça vous vient de quelle lecture ? Vous appelez Feu Chatterton, mais paraît-il, ce n'est pas Alfred de Vigny qui préside à l'origine, à l'inspiration de vos textes.
Non, alors pour le nom du groupe, ça nous vient d'un tableau. Je pense que c'est important aussi de le souligner un tout petit peu, c'est un peu anecdotique, mais ça montre que les références ne sont pas purement littéraires, purement musicales, et que, en fait, l'image, le cinéma, ce qu'on peut voir, vous parliez de paysage tout à l'heure, inspire beaucoup les textes et la musique. Et Chatterton, finalement, qui est un poète anglais du XVIIe siècle, 18e, pardon. Vous voyez,
Sébastien, je sais même guitariste pas et compositeur et fin lecteur, corrige.
Je ne sais même pas précisément ce qu'a écrit Chatterton, le poète anglais. Ce qui m'intéressait, c'est le tableau qui représentait Chatterton, mort, donc Feu Chatterton, de Henri Wallis. On voit le jeune homme étendu sur un lit dans une chambre de bonne anglaise qui a l'air de dormir paisiblement et qui, en fait, est mort suicidé. Et on le comprend parce qu'il y a au bout de sa main sur le sol un flacon de laudanum vide. Et c'est en fait plus cette image-là de sommeil paisible qui se transforme parce qu'on le découvre en une mort tragique qui nous intéresse. Parce qu'on aime que notre musique puisse sonner comme ça, qu'il y ait toujours un double sens. L'adolescence, on la met en scène. On n'est pas l'adolescent quand on la raconte.
On n'est plus l'adolescent.
J'ai un sex appeal LR6. La vie est dure à celle qui se refuse à moi. Je fais de l'exercice avec une, deux, trois animal caline, alcaline, alcaline, alcaline. Sex appeal LR6. La vie est dure à celle qui se refuse à moi. Je fais de l'exercice avec une, deux, trois animal caline, alcaline, 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 alcaline.
Sex Appeal du groupe Feu Chatterton. Antoine, bassiste dans Feu Chatterton, c'est vous qui êtes à la composition de ce morceau?
Ouais, voilà, c'est le seul morceau que j'ai composé jusqu'à là pour Feu Chatterton. C'est marrant que vous ayez choisi celui-là justement, parce que c'est le seul de l'EP qui va sortir qui n'est pas composé par Sébastien ou Clément.
C'est un choix de Michel-Ange Vinti, réalisateur de La Grande Table d'été.
D'accord.
Un homme de goût.
Et bah, c'est sympa, ça me fait plaisir.
Et alors racontez-nous alors,
bah,
d'où
en fait,
ça vient?
Contrairement à tous les autres morceaux, il n'est pas... Il n'a pas été pensé en amont, il n'a pas été composé, maquetté. C'est vraiment une improvisation du matin.
Un sextoy dans la main?
Presque, ouais, une blague avec Arthur. Il a improvisé un petit texte sur une ligne de synthétiseur en résidence dans le Gers le matin. Ça s'est fait en une demi-journée, c'était plié. Puis on l'a trouvé très bien comme ça, en fait. Ça suffisait.
Mais c'était drôle parce qu'en fait...
Arthur.
Pardon, ouais. Antoine compose beaucoup, mais il est assez discret. On adore ce qu'il fait. La presque totalité des influences électroniques de nos chansons, et ça ne cesse d'augmenter dans nos compositions, viennent de lui. Parce qu'on aimait bien l'électronique, mais il a un savoir sur les machines analogiques, les claviers qu'on n'avait pas du tout, et il nous a entraînés là-dedans. Et donc, longtemps, il s'est dit, je ne peux pas montrer ce que je compose électroniquement au groupe parce que ça ne convient pas au style. Or, on est ouvert à tout. Et on était en résidence dans le Gers, à la campagne. Et un matin, il s'est levé plus tôt que nous. Et il était sur un seul clavier à faire des variations autour de ce thème. Tin, 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 tin. Alors j'arrive, je prends mon café, et je le regarde sur la scène, en train de faire ça à l'infini. Et puis, Antoine, garde ça, enregistre-le. Et puis l'après-midi, autour d'un jeu de mots un peu idiot sur les piles à
LR6.
Le sex
appeal.
Et le sex appeal. On s'est dit que c'était intéressant de faire quelque chose d'un peu plus léger que d'habitude.
Ouais, si je peux me permettre, on a oublié, je voulais dire aussi quand même, j'ai pas tout fait, il y a la batterie qui a été programmée et pensée par Raphaël, en fait, c'est une histoire un peu marrante parce que ça venait d'un...
Bah, en fait, ils avaient ce morceau, il avait fait une première programmation, il n'était pas satisfaite. Moi, j'étais en train de travailler avec une vieille méthode de batterie des années 60 qui faisait des exercices de combinaison un peu rébarbatif, et je me suis rendu compte qu'un des exercices, en fait, pouvait très bien sonner sur une boîte à rythme. Et donc je suis allé voir, je lui ai montré le truc, et en plus, c'est faux, c'est lui qui l'a ensuite programmé, mais c'est juste un vieil exercice de batterie d'une méthode américaine des années 60, qui est devenu en fait une petite boîte à rythme 8 bits rigolote.
Mais Clément, alors justement, il y a quelque chose de composite, on l'entend dans les témoignages des différents membres de Feu Chatterton, dans l'élaboration de la musique, pas seulement dans le texte, c'est une musique qui est faite de ruptures, de relances explosives. Comment ça s'écrit? Comment ça s'inscrit?
Il n'y a pas vraiment de recette dans la composition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se découvre des choses entre les différentes personnes du groupe. Par exemple, là, sur cette chanson, en l'occurrence, c'est Antoine qui avait ramené ce synthétiseur Roland en résidence, sachant que nous, on connaissait pas du tout. Et en fait, on est tombé assez amoureux de cette machine, et puis on en a fait quasiment tout l'été. Donc on a fait des boucles d'électro, en fait, avec ce clavier, en le mettant dans des pédales d'effet, etc. Et après ce morceau, on a décidé d'en user et d'en abuser. On en a mis par exemple de synthétiseurs dans le pont de la Malinche, donc la partie internaire de la Malinche.
Et donc ça, c'est une des composantes du groupe. Voilà.
Mais précisément, Sébastien, ce travail sur le son minutieux avec tous ces effets, toutes ces pédales d'effets, il y a quelques images de vous en studio, c'est quelque chose que vous envisagez avant même l'écriture, ou alors c'est un son très brut que vous retravaillez ensuite patiemment?
En fait, dans l'écriture, dans la composition, parfois, dans vraiment les premières, le lancement d'une composition, il y a parfois de la technique, et il y a la découverte d'un nouveau, comme disait Clément, d'un nouveau synthétiseur, d'une nouvelle pédale d'effet. Par exemple, pour Code Concorde, c'est la découverte de la pédale reverse. Donc c'est un élément qui est souvent important. Et après, le travail précis du son en studio, il se fait souvent en studio, puisqu'on n'a pas le matériel
donc
à la maison.
Avec des ingé sons qui montent à bord de Feu Chatterton. Voilà,
Sammy Oster, en l'occurrence, qui a travaillé avec nous sur ce premier EP, et qui va nous proposer un certain nombre de possibilités de reverb, de delay. Et nous, après, on choisit chacun les instruments, les pédales d'effet, même les claviers qu'on va utiliser au moment même de l'enregistrement.
Sur cette côte d'azur, les baigneurs palmipèdes ignorent tous les secrets de plage où l'on étend nos 17 ans. Tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr. Je t'ai conduite dans la pinède. C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend nos 17 ans. Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, sache.
Que souvent ça les soirs qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel ou dans l'aube du soir. Il faut que l'on sache les choix, se perdre mieux vaut fermer les yeux. Du 16, 3, 4, de compte et princesse. Oh, 3, 4, de compte et princesse. Il faut que l'on sache les choix, se perdre mieux vaut fermer les yeux. 3, 4, de compte et princesse. De compte et princesse.
La mort dans la pinède, Feu Chatterton sur France Culture autour de la grande table d'été. Il y a du courage dans votre musique, messieurs. Combien de butors séduisent en effet aujourd'hui à coups de grilles d'accords rudimentaires. Alors d'où vous vient cette audace d'oser l'élégance, la sophistication, Arthur?
Peut-être des modèles qu'on a eus dans l'enfance. Par exemple, Sébastien et Clément écoutaient beaucoup de jazz. Moi, en chanson, j'ai aimé des dandys insolents comme Gainsbourg, des personnages grands par leur physique et leur présence comme Bachung.
Mais dont on se plaît à déplorer la disparition. Et donc vous osez apparaître?
Oui, alors bon, attention, là c'est plus de l'audace, c'est du culot, là. C'est de l'inconscience. Non, on n'oserait pas se comparer à eux. C'est vrai que c'est confortable de préférer les morts parce qu'ils ne peuvent plus vous décevoir. Donc on les aime bien, et puis dans nos chansons on aime bien faire mourir les gens, mais avec de la légèreté, hein. Ils n'existent pas ces personnages. Et je pense que cette audace nous vient de... C'est plus un hasard en fait, on ne va pas s'en vanter, parce qu'on a toujours commencé par faire des choses compliquées pour élaguer ensuite. Et donc, si aujourd'hui on a l'impression qu'on fait un rock complexe, c'est parce qu'en fait avant on a fait tout un tas de choses qu'on a simplifiées pour l'amener dans cet entonnoir du rock.
Et vous n'êtes pas prêt à élaguer complètement ce qui fait la complexité, la richesse de votre musique, Sébastien?
Je pense qu'on est arrivé à un point dont on est assez content, et on essaie de continuer dans cette stabilité-là. Mais ce que disait Arthur tout à l'heure est important. En fait, plus tôt, il y a même 5-6 ans, on avait d'autres formations, même avec Clément et Arthur, où on faisait des choses beaucoup plus jazz, où l'harmonie était plus complexe et ça la rendait un peu plus hermétique et voire chiante. Et ce qu'on a décidé de faire avec ce projet Feu Chatterton, c'est au contraire d'élaguer, puisqu'on vient tous, par exemple Antoine est contrebassiste classique, Raphaël est batteur de jazz, on vient vraiment d'une culture plus harmonisée, on va dire, et on a allé vers la pop et vers le rock parce qu'on pensait que c'était le moyen de donner aux gens des sens plus clairs à des textes et des émotions plus fortes, tout en gardant cette complexité mélodique et harmonique qu'il y a dans le jazz et qu'il y a chez un groupe qu'on aime beaucoup, Radiohead, dans un album comme Amnesiac. Voilà.
Merci beaucoup à tous les cinq. Rendez-vous donc à la rentrée en septembre avec ce premier EP, ce premier album de Feu Chatterton, et pour vous retrouver sur scène
le 12 septembre au Point Éphémère et le 27 au Trianon. Et après en tournée à partir du 3 octobre dans toute la France.
La Grande Table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
Et c'est aussi avec Marine Loyen pour sa chronique dédiée à ce qu'il y a de plus populaire dans la culture cet été. Et comme le chant d'Arthur de Feu Chatterton, vous restez à Paname pour une balade dans le Paris du cinéma.
Oui, nous partons aujourd'hui en balade dans un Paris rêvé, fantasmé, idéalisé. Et si un quartier a bien été filmé sous toutes ses coutures, c'est Montmartre, au point qu'aujourd'hui, au fil des rues, fiction et réalité se rejoignent. Depuis 2 ans, Lisette Pires, une jeune comédienne, propose une visite du quartier à travers le cinéma. À 14h précise, la voici, chemisier blanc à dentelle et jupe rétro. La visite peut commencer. Première étape, une petite épicerie.
Est-ce que vous avez reconnu cet endroit-là ou pas?
Oui.
Tous?
Toutes.
Ah, vous l'avez tous vu, ce film?
Oui.
Vous vous en rappelez, ou vaguement?
Oui.
Oui, c'est l'épicerie du film. Et le film, il est quand même sorti en 2001, donc ça date pas d'hier. Mais c'est quand même resté dans la tête des gens. Quand on parle de films tournés à Montmartre, en général, on pense à Amélie Poulain. Pourtant, il y en a eu plein d'autres. Mais c'est celui-là qu'on retient en général. Notamment, deux lieux de tournage ici à Montmartre qui ont marqué. C'est le Café des Deux Moulins qui est en bas de la rue Le Pic. Ce ne sera pas très loin de là où on terminera la visite. Et il y a aussi l'épicerie Collignon, mais en fait, ce n'est pas le vrai nom de l'épicerie. C'est au marché de la Butte, en fait, c'est au niveau du store, là. Et la pancarte que vous avez au-dessus, là où c'est marqué Maison Collignon, c'est un souvenir du tournage. Parce que dans le film, l'épicier, il s'appelle Monsieur Collignon. Mais le tournage a quand même duré 2 semaines ici. Alors, c'est beaucoup pour des scènes d'extérieur. Parce que si vous vous rappelez bien, il n'y a rien qui a été tourné à l'intérieur de l'épicerie. Il y a juste la devanture. C'est là, d'ailleurs, qu'on voit Jamel Debbouze, je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec Monsieur Collignon, en fait c'est Urbain Cancelier, le comédien.
Monsieur Collignon, vous avez oublié vos clés.
Oh, une minute, la Mélie Méléo. Il fait pas bon se presser ces temps-ci. Tenez, vous avez qu'à prendre exemple sur Lucien. Lui, quand il bosse, il ne risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai?
Quelques pas plus loin, une centaine de mètres, place Marcel Aimé, une sculpture de bronze, un homme semble sortir du mur. On est dans le Passe-Muraille, le film adapté de la nouvelle de Marcel Aimé.
La sculpture que vous avez là, en fait, c'est Jean Marais qui l'a faite. Donc c'est un grand acteur, il était aussi cascadeur, il était très doué aussi pour la sculpture, la poterie, enfin il savait tout faire. C'était un homme à tout faire. Je sais pas s'il faisait le ménage aussi. Mais... Alors donc Jean-Marie, il s'est inspiré du visage de Marcel Aimé, l'auteur du Passe-Muraille, d'ailleurs qui habitait juste là. Donc il rend vraiment hommage à Marcel Aimé parce qu'il déjà l'habitait ici. Donc il s'est inspiré du visage pour la sculpture, mais aussi dans la nouvelle, si vous la lisez, c'est marqué que le personnage qui a le pouvoir de traverser les murs, il perd son pouvoir rue Norvin. Et en fait, ici, avant de s'appeler Place Marcel Aimé, c'était rue Norvin, en fait, comme en face, de l'autre côté. Sous le numéro 21, là, il y a la plaque rue Norvin. Donc ils ont mis la sculpture là où le personnage, finalement, était censé avoir perdu le pouvoir, rue Norvin. Est-ce que vous avez vu le film? Parce que si on n'a pas lu la nouvelle, on a peut-être vu le film avec Bourvil. Le film est sorti quelques années après la publication de la nouvelle et Marcel Aimé était encore en vie, donc il l'a vu et il l'a détesté. Il en a surtout voulu Marcel Aimé à Bourvil parce que pour lui, c'est Bourvil qui a gâché le film. Alors c'est peut-être un bon choix pour ce qui est... le film a eu un gros succès, finalement. Le réalisateur, il a fait quelque part un bon choix, si c'est ce qu'il voulait.
Et puis, si vous voulez retrouver le Montmartre du cinéma, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Lisette Pires, lisette.pires.free.fr.
Merci Marine. La grande table d'été aujourd'hui était mise à feu par notre petit caravansérail réunissant Corinne Amar, Lola Kahn, Marine Loyen, Brigitte Masson, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen à la réalisation, Michel-Ange Vinti à la prise de son, Élise Le.